vous allez apprendre dans cette formation sur la prospection téléphonique des propriétaires qui veulent vendre par eux-mêmes. Bah, tout d'abord, on va chercher à les comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils essayent tout seuls de vendre leur propriété sans faire affaire avec un professionnel de l'immobilier? Ensuite, le script au téléphone. Quoi dire? Comment le dire? Pour obtenir facilement, simplement, des rendez-vous pour pouvoir avoir l'opportunité de leur présenter ce que vous pouvez faire pour eux et leur donner envie de travailler avec vous. Dans un troisième temps, il y aura des jeux de rôle, des mises en situation qui vont vous permettre de voir vraiment, comme dans la réalité, comment ça se passe. C'est bien simple. Le téléphone, c'est la bête noire de 99,9% des agents immobiliers. Donc ce qu'il y a, c'est que si vous suivez la formation et que vous regardez le téléphone sans le prendre dans votre main et composez les numéros, il ne va rien se passer de nouveau. Donc, il faut briser la glace, il faut oser. Vous prenez votre téléphone, vous composez le numéro et vous allez parler à des gens. Tout ce que vous risquez, au pire, c'est un non. Okay? Et ça ne va pas vous tuer. Donc, de l'action. De l'action et encore de l'action. Osez, brisez la glace. Entraînez-vous encore et encore à utiliser le script. Vous allez voir, après, le téléphone va devenir votre meilleur ami. Les propriétaires essayent de vendre par eux-mêmes. Si on regarde quelques chiffres pour la France, sur 100 vendeurs, il y en a 70 qui ont réussi à vendre par l'intermédiaire d'une agence immobilière, alors qu'il n'y en a que 30% qui ont réussi à vendre par eux-mêmes. Pourtant, on a l'impression qu'ils sont très nombreux sur les sites d'annonces, de diffusion. Alors pourquoi? Essayons simplement de nous mettre un petit peu à leur place. Réfléchissons. Je vous poserai simplement une question. Si à vous, je vous demande, allez, vous mettez sur la table, là tout de suite, 100 euros, et je ne vous dis pas pourquoi. Je ne pense pas qu'il y ait bien grand monde dans l'assistance là qui va me donner ces 100 euros. Et vous voyez l'analogie que je fais entre l'histoire des 100 euros et que vous ne savez pas pourquoi vous allez me les donner, bah globalement pour les propriétaires c'est un petit peu la même chose. Il y a un problème de perception de notre valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi ils paieraient une somme X, peu importe cette somme, pour nos services? Parce que là, dans leur tête, à eux, ils le disent toujours, on coûte trop cher, je veux sauver les honoraires. Ils ont toujours plein de raisons là, mais celle qui revient tout le temps là, c'est l'argent. La perception d'un manque à gagner. Dans leur tête, aux propriétaires, c'est pas 100 euros qu'on coûte. C'est le prix d'une voiture de luxe neuve. Figurons, 5% sur une maison à 300 000, fait 15 000, 500 000, 5 x 5, 25, on est déjà à 25 000. Alors, si vous n'étiez déjà pas prêt à me donner 100 euros, imaginez, est-ce qu'un propriétaire irait vous donner 15, 20, 25 000 euros s'ils ne savent pas pourquoi ils payent? Vous comprenez le cheminement qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que les propriétaires puissent percevoir notre valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter concrètement en argent sonnant et trébuchant dans leur poche? Parce que c'est ça qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre parler d'action et de résultats. Comment ils vont atteindre leur objectif? Et nous, c'est ça notre valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on fait pour les clients tous les jours? On le sait. Au niveau des axes de communication, au niveau de notre disponibilité, les suivis, la publicité, tout ce que vous voulez. Mais eux n'en ont pas la moindre idée. Donc, il va falloir leur dire qu'est-ce qu'on fait et quel est l'avantage qu'ils en retirent. Propriétaires ont besoin de vous. Ce qu'il y a, c'est qu'on l'a vu, 70% des transactions qui sont faites par les agences immobilières, 30% qui sont faites sur les sites de vente au PAP. Parmi toutes ces personnes qui essayent de vendre par eux-mêmes, il y en a finalement que ça se vende ou que ça ne se vende pas, ça leur est complètement égal. Comme on dirait, là, ils testent le marché. Mais ce qu'il y a, c'est que dans tout ce monde-là, il y en a qui ont vraiment besoin de vendre, qui ont un réel projet et qui comptent sur vous. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc, c'est leur démontrer notre valeur ajoutée. Je crois fondamentalement que si notre avantage concurrentiel, alors notre avantage concurrentiel, c'est qu'est-ce qui nous différencie d'une agence A, d'une agence B, d'accord? Que si cet avantage concurrentiel, cette différence, c'est simplement l'argent, donc la course au moins cher, bah, la perception du client, bah, c'est qu'on devient une commodité. Alors une commodité, j'ai essayé de chercher une image simple pour définir une commodité. Bah, une commodité, pour moi, ça serait un paillasson devant la porte d'une maison pour s'essuyer les pieds ou du papier toilette dans des toilettes. On n'a ni vous ni moi envie d'être un paillasson ou du papier toilette. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir démontrer notre valeur ajoutée aux propriétaires et surtout une chose plus importante que tout le reste. Les avantages qu'ils en retirent. Maintenant qu'on a vu l'importance de la valeur ajoutée et surtout que les propriétaires perçoivent les avantages qu'ils en retirent, voyons une chose. Quelle est la meilleure façon qu'ils puissent évaluer nos solutions? Alors, ce que je crois que avant tout, la vente, hein, oui, il y a des mots, mais la vente, c'est surtout un transfert d'énergie. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis le gars qui déteste le plus au monde le téléphone. Mais on n'a pas le choix dans notre business. Je suis incapable de vendre mes services au téléphone. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à transmettre cette énergie, ce transfert d'énergie qui se passe dans une vente. Parce que c'est quoi une vente? C'est juste le croisement du rationnel et de l'émotionnel. Le rationnel, c'est nos services. Qu'est-ce qu'on fait pour eux, la valeur ajoutée? Et l'émotionnel, c'est qu'est-ce qu'on va leur faire vivre aux gens. Et ça, je crois fondamentalement que c'est beaucoup plus facile de le faire quand on se regarde droit dans les yeux. Donc, la meilleure façon, ça va être se rencontrer. On va s'asseoir à la table de la cuisine ou à la table de la salle à manger, et puis on va présenter nos options, nos solutions, notre valeur ajoutée, notre plan d'action, c'est notre offre de service. Quel est le moyen le plus efficace pour aller les rencontrer? Alors, il y a deux solutions. Soit on va faire du porte-à-porte, soit on le fait au téléphone. Alors, bon, en ce qui me concerne, je suis au Québec, et puis en hiver, il fait entre moins 10 et moins 40. Je peux vous dire qu'à moins 40, il n'y a plus grand monde dehors. Donc, j'aime bien le téléphone. Et puis pour une autre raison aussi. C'est que quand on le fait à la porte, et je l'ai fait pendant longtemps comme ça, eh ben, on peut faire peut-être 4, 5, 6 portes en une heure. Alors qu'au téléphone, on peut en faire 10, 12, 14, 16, un peu environ. Donc, on est capable d'en faire presque deux fois plus en dedans d'une heure. Donc, en fait, au téléphone, on augmente notre productivité. Et puis, si comme moi, vous êtes dans un pays où il fait froid en hiver, ben, ce qu'il y a, c'est que vous êtes au chaud, dans votre bureau, vous prenez vos rendez-vous, après, vous montez dans votre voiture qui est chauffée, et puis après, vous allez chez le client aussi, c'est chauffé. Et puis après, vous faites votre travail. Donc on est d'accord que c'est beaucoup plus productif de faire de la prospection au téléphone plutôt que d'aller cogner à chacune des portes. D'accord avec ça? Ok. Maintenant, posons-nous une question. C'est quoi l'objectif qu'on doit avoir quand on se met au téléphone? On décroche le téléphone, on compose le numéro, on parle avec les gens. C'est quoi notre objectif? Ben, je crois une chose, c'est que le seul objectif qu'on doit avoir, c'est d'obtenir un rendez-vous. Simplement, est-ce que vous avez envie de travailler toutes les maisons? Est-ce que vous avez envie de travailler avec toutes les personnes? Simplement, quelqu'un qui n'est pas motivé à vendre et que son prix serait complètement débile, est-ce que vous auriez envie de travailler avec lui? Non. Donc, vous allez rencontrer ces gens, évaluer leur motivation, voir leur maison. D'accord avec ça? Ok. Quand on argumente en bout de ligne, c'est pour signer le contrat. Est-ce qu'il y a? Je voudrais vous montrer une chose, la main. Merci. Je voudrais vous donner un jeu entre nous. Imaginez, vous prenez une feuille, et ça, c'est le contrat que vous devez faire signer à votre client. Vous le roulez comme ça, là. Et là, vous prenez un crayon, vous savez, le crayon pour signer le contrat. Et là, donc, vous faites votre argumentation au téléphone, et là, maintenant, il faut faire signer le client. N'y a pas d'application pour faire signer le client comme ça au téléphone alors qu'il ne vous connaît même pas. Donc, on va gagner du temps. Vous prenez votre téléphone et un seul objectif, c'est de prendre un rendez-vous. Et quand vous serez chez le client et que vous aurez pris le temps de connecter avec lui, de créer un lien de confiance et que vous aurez présenté ce que vous pouvez faire pour lui, là, vous pourrez le faire signer. Parler d'attitude et puis d'intonation. En fait, oui, on va travailler le script, les mots, mais les mots vont faire que vont correspondre, je dirais, à 3% de probabilité que vous ayez le rendez-vous. Toute la différence. 67% c'est l'attitude et 30% c'est la tonalité. Donc, comme je dis en rigolant, c'est dites rien, mais dites-le avec de l'attitude et puis de la tonalité. Peut-être que vous avez de la chance d'obtenir le rendez-vous. Mais bon, on va pas jouer là-dessus. On va apprendre tout à l'heure ce qu'on fait, ce qu'on dit au téléphone. Mais au-delà de ce qu'on va dire, comment être à son meilleur pour le dire? Moi, ce que je vous suggère d'abord, c'est de vous tenir debout quand vous êtes au téléphone. On ne bouge pas pareil. Il y a pas, c'est pas la même vibe. On est mieux comme ça. Plutôt que d'être avachi dans sa chaise, la voix ne porte pas pareil. Un deuxième truc. Une tenue vestimentaire business. Là, je parle surtout pour ceux qui travailleraient de chez eux. D'accord? Quand on travaille de chez soi, et ben le téléphone, et ben on le fait pas en pyjama. C'est aussi simple que ça. Je vais pas épiloguer sur la tenue vestimentaire, mais on s'habille comme si on allait chez le notaire, même si vous êtes dans votre salon. Le sourire, ça s'entend. Souriez au téléphone, c'est tellement plus agréable et en plus ça vous donne de l'énergie. Rythmez le dialogue. Rythmez le dialogue. Ce que je veux dire, c'est si vous appelez comme ça, non, les gens vont s'endormir, vous avec. Tout le monde va raccrocher avant l'autre, ça va pas fonctionner. Et puis parlez clairement. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas celui qui parle le plus vite qui est le mieux entendu. Parce que si vous y allez, oui bonjour, je vous appelle parce que ça va trop vite, ça marche pas. Prenez le temps, posez. C'est vous le professionnel, c'est vous qui avez le contrôle. Alors. On va apprendre les textes. Maintenant, on a vu comment faut se tenir pour être au téléphone, pour être bien. Tout ce qu'on a envie, c'est que les gens nous disent oui, évidemment. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'il ne faut pas se faire casser les jambes par ceux qui vont vous dire non, parce qu'il va y en avoir des non. Alors, simplement, pour vous préparer à ça, deux règles. La première, c'est la règle du taux de transformation. En moyenne, ça prend de parler à 5 personnes pour obtenir un rendez-vous. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'il y en a 4 qui vont vous dire non. D'accord? Donc, c'est normal. C'est normal, ils ont le droit de vous dire non. Et la deuxième, c'est la règle des trois tiers. Alors, ce n'est pas des vrais tiers, hein. Il y en a un tiers qui accepteront jamais un rendez-vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ils n'accepteront jamais. Ils ne veulent pas entendre parler de vous. Ils ne veulent pas vous voir. Et ils ont le droit. Mais le prenez pas perso. Ils ne vous connaissent même pas. Donc, ce n'est pas une attaque personnelle. Mais que le professionnel de l'immobilier, bah, ça ne les intéresse pas. Et c'est correct. La beauté de la chose, c'est qu'il y en a un tiers qui vont accepter immédiatement un rendez-vous. C'est là que ce n'est pas des vrais tiers, parce que c'est 1 sur 5, donc ça fait 20%, ça ne fait pas un tiers, d'accord? Et il y en a un tiers surtout qui vont accepter un rendez-vous grâce à votre suivi. Et le suivi avec les propriétaires qui vendent par eux-mêmes, c'est la clé, clairement. Sachez qu'il y a presque la moitié des professionnels de la vente et la moitié des professionnels de l'immobilier qui ne font jamais suivi. Jamais, jamais, jamais. Et ben vous savez quoi? C'est qu'il y a moins de 10% de professionnels qui font plus que 3 suivis, plus que 3 contacts. Donc si vous êtes de ceux-là qui font 3 contacts et 4 contacts et plus, ben la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 90% des ventes qui vont se conclure après le quatrième contact. 90% des gens qui vont signer avec vous après le quatrième contact. Vous voyez l'importance du suivi? Je voudrais vous parler de deux chiffres qui vont vous démontrer à quel point c'est un jeu payant de solliciter et puis de faire le suivi avec les gens qui vendent par eux-mêmes. On a vu, c'est 5 appels, donc parler à 5 personnes pour obtenir un rendez-vous. Et vous savez quoi? Il suffit simplement de parler de 13 à 19 personnes pour signer un mandat, pour signer un contrat. À chaque fois que vous allez parler de 13 à 19 personnes, vous allez signer un contrat. Combien vous rapporte un contrat? Vous venez d'attribuer la valeur du jeu. Au téléphone, vous allez vous fixer des objectifs. C'est bien simple. Vous voyez à l'écran, vous avez un tableau. Vous allez mettre la date, l'heure de début et l'heure de fin. Moi, ce que je vous suggère, c'est mettez pas plus que 90 minutes parce que au-delà, ça devient proche de l'overdose. D'accord? Maintenant, les objectifs. On va se fixer un objectif d'un nombre de conversations, donc un nombre de personnes à qui on va parler pour de vrai. Hein, d'accord? Et un objectif de nombre de rendez-vous. Donc, on a vu par exemple tout à l'heure qu'il faut 5 conversations pour un rendez-vous. Donc, si vous voulez par exemple obtenir 2 rendez-vous, il faut alors fixer comme objectif de parler à 10 personnes. D'accord? Donc, dans le tableau par exemple, si vous voulez 2 rendez-vous, vous mettez 10 conversations. Vous voulez 3 rendez-vous, vous mettez 15 conversations. Vous avez compris le principe. Ensuite, sur quand vous êtes au téléphone, qu'est-ce que j'ai réalisé? Bah, tout d'abord, le nombre d'appels. Alors, un appel, c'est un numéro que j'ai composé. Peu importe ce qui se passe, ça, c'est un appel. D'accord? Ensuite, le nombre de conversations. Donc, j'ai composé le numéro. Ça faisait une barre, hein, par exemple. Vous mettez un petit bâton. Et j'ai parlé à la personne. Vous mettez un petit bâton. Et ensuite, par exemple, vous avez obtenu un rendez-vous. Bah, vous mettez un bâton dans j'ai obtenu un rendez-vous. Maintenant, autre cas de figure. Je compose le numéro, donc j'ai un appel, mais que la personne ne répond pas, elle n'a pas répondu ou vous êtes tombé sur le répondeur téléphonique, vous mettez un petit bâton dans ne répond pas. D'accord? Pour les objectifs, nombre de conversations, nombre de rendez-vous, pour débuter, pour démarrer, histoire de se donner la patate, d'accord? Au premier des deux objectifs que vous avez atteints, vous vous arrêtez. Vous avez le droit de continuer, mais vous pouvez vous arrêter. Donc ça veut dire quoi? C'est que si vous avez fixé comme objectif de parler à 15 personnes pour obtenir 3 rendez-vous, et bien que si vous avez parlé à 15 personnes mais que vous avez 0 rendez-vous, félicitez-vous parce que vous avez fait quelque chose que vous ne faisiez pas jusqu'à présent. Maintenant, deuxième cas de figure, par exemple, vous faites 3 conversations, 3 rendez-vous. Génial, vous avez atteint aussi votre objectif. Et puis après, il faut penser aussi à la gestion du temps. D'accord? Parce que si vous dites je vais faire 15 appels, je vais parler à 15 personnes, que vous obtenez 10 rendez-vous, bah, ce qu'il y a, c'est que gérer 10 rendez-vous dans le temps qui vous reste dans votre semaine, ça peut peut-être être compliqué. Donc voilà l'intérêt de se fixer un objectif et au premier des deux qu'on a atteint, vous pouvez vous arrêter. Vous avez le droit de continuer, mais vous pouvez vous arrêter et surtout vous féliciter. Vous allez vous mettre au téléphone, vous avez fixé des objectifs. Une dernière chose avant de commencer, c'est planifier votre temps. Ce que je veux dire, c'est vous ouvrez vos agendas et vous allez planifier des plages horaires. Un bloc temps, c'est quoi? C'est une tâche spécifique pendant un temps déterminé. Ces blocs temps, c'est 90 minutes. Alors, les 90 minutes de prospection au téléphone, vous pouvez le faire, ça, c'est dès le premier du mois pour les 30 jours à venir. Vous déterminez quand est-ce que vous allez prospecter au téléphone. Et ça, c'est non négociable. Si vous ne prospectez pas, votre entreprise ne peut pas grandir. Donc, non négociable. Même pour un rendez-vous chez le notaire, c'est non. Un rendez-vous avec un acheteur, c'est non. Un rendez-vous avec un vendeur, c'est non. Vous travaillez sur votre agenda, d'accord? Pas celui des gens. Donc, les blocs temps de prospection, vous le faites pour les 30 jours à venir. En début de semaine, imaginez que vous faites votre prospection principalement, je sais pas moi, le lundi et le mardi. Vous avez planifié des blocs temps de 90 minutes pour la prospection. Maintenant, quand vous allez prospecter, vous allez obtenir des rendez-vous. Des rendez-vous 1, des rendez-vous 2. Et ce qu'il y a, c'est que ces rendez-vous, vous allez planifier aussi 90 minutes. 90 minutes, et entre chaque bloc, comme vous pouvez le voir à l'écran, sont séparés eux aussi d'un certain temps, c'est une heure. L'heure qui est entre chaque bloc, elle sert à quoi? Eh bien, elle sert à prévoir les imprévus. En tout cas, on ne sait pas quel imprévu va arriver parce que c'est le principe d'un imprévu, mais en tout cas, maintenant, vous aurez le temps de pouvoir gérer les problèmes qu'on a dans une journée. Un client pas content, un dossier urgent à régler, des appels à retourner, une panne d'essence, un pneu qui crève, un retard à un rendez-vous, le trafic qui est un petit peu lent, d'avoir le temps de faire son travail correctement et de ne pas arriver complètement stressé en rendez-vous ou d'être complètement brûlé à la fin d'une journée. Faites-en peut-être moins, mais faites-en mieux. Et en tout cas, il y a une chose dont je suis certain. C'est qu'une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Et que la clé de la confiance en soi, elle est basée sur la préparation. Cette phrase-là, c'est pas de moi, c'est d'Arthur Ashe. Préparez-vous. Encore et encore, entraînez-vous. Ce que je veux dire, c'est que là, on va voir le script au téléphone. Faites des jeux de rôle avec un collègue de travail. Quand vous allez ensuite aller à vos rendez-vous, je vais vous apprendre à dire des choses. Bah, entraînez-vous avec vos collègues. Ce que je veux dire, c'est ne vous entraînez pas avec vos clients. Ne vous entraînez pas avec vos clients. Entraînez-vous, prenez le temps de vous entraîner. La préparation, c'est la clé. Et plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez dégager cette énergie fantastique et qui fait que les gens vont vouloir signer avec vous. Est-ce que vous voulez que les gens signent avec vous? Préparez-vous. Vous voulez le script? Une chose à savoir sur comment l'utiliser. Vous téléchargez le document, vous imprimez le document et vous le mettez ou sur votre bureau ou vous le mettez sur le mur devant vous et vous devez toujours, toujours, toujours l'avoir avec vous. Même dans 6 mois, quand vous le maîtriserez par cœur, vous devez quand même l'avoir devant vous. Pourquoi on fait ça? Bah, quand on commence, c'est bien simple, c'est parce qu'aujourd'hui, vous ne le connaissez pas. Mais dans 6 mois, c'est que il y a des soirs ou des matins, ou enfin quand vous allez faire de la prospection, vous allez être plus fatigué que d'autres. D'accord? Donc, c'est rapide, vous raccrochez au texte. Il y a un autre aspect, c'est que la tentation de sortir du texte est énorme. Donc, ne sortez jamais du texte. Une compétence principale que ça prend pour dérouler ce script, c'est un, de le faire avec enthousiasme, mais deux, c'est de savoir lire. Donc, c'est deux choses que vous savez faire. Vous êtes enthousiaste et puis vous savez lire. Donc, suivez le texte et n'en sortez pas. Donc, je répète, télécharger, imprimer, l'afficher. Maintenant, c'est parti, on déroule le script. La première partie, c'est le filtre. C'est bien simple. Je vous mets en situation. Oui, bonjour, je vous appelle concernant votre maison que j'ai vue sur tel site internet. Est-ce que c'est toujours à vendre? Oui, très bien. Est-ce que vous êtes le propriétaire? Excellent. Revoyons la scène au ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé? Le filtre est super important. 1. Se présenter. Bonjour, je vous appelle concernant votre maison ou votre appartement. On parle de maison ou d'appartement. On ne parle pas d'un bien immobilier. D'accord? Donc bonjour, je vous appelle concernant votre maison que j'ai vue sur. Là, vous mettez le nom du site internet sur lequel vous avez l'habitude d'aller pour collecter la pige. D'accord? Deuxième chose. Est-ce que c'est toujours à vendre? Question super importante parce que je dirais un réflexe conditionné des propriétaires qui ne veulent pas entendre parler des agences immobilières, c'est de dire bah, c'est vendu, si jamais vous vous présentez tout de suite. Donc, en sachant que c'est toujours à vendre, vous êtes certain d'avoir déjà préqualifié que la propriété est toujours disponible sur le marché. Enfin, est-ce que vous êtes le propriétaire? Bah, c'est quand même super important de savoir qu'on s'adresse à un interlocuteur décisionnaire. Parce que si vous tombez sur, je sais pas moi, le cousin. Non, je suis le cousin du propriétaire. Ok, ben là vous demandez qui est le propriétaire ou est-ce que je peux parler au propriétaire? Donc ça vous a pris 3 à 4 secondes pour passer le filtre et maintenant on va se présenter. D'accord? Point 4, simple. Oui, je me présente, je m'appelle Yann Raoul, je suis conseiller immobilier pour telle agence dans votre quartier. Tout simple. Vous êtes présenté, vous donnez votre nom, votre prénom, votre fonction, le nom de votre agence et vous spécifiez quand même que vous êtes dans le quartier où se trouve la propriété. Donc maintenant, on va dire pourquoi on appelle. Je vous montre. Oui, je vous appelle parce que tous les jours, je visite des propriétés qui sont à vendre dans mon secteur et qui me semblent intéressantes pour les acheteurs. Simple, court, efficace. Une nuance. Je visite des propriétés, là vous pouvez dire maison ou appartements qui sont à vendre dans mon secteur, et surtout le point important qui me semble intéressante pour les acheteurs. Restez vague. Et je vous explique pourquoi. Pas mes acheteurs. Parce que notre objectif, n'est-ce pas, de trouver le meilleur acheteur pour la propriété de notre éventuel futur client. Le meilleur. Est-ce que c'est vous, dans votre base de données, qui avez le meilleur acheteur? Peut-être. Peut-être pas. Est-ce que c'est un de vos collègues qui a le meilleur acheteur pour cette maison? Peut-être. Si vous travaillez en intercabinet sur des fichiers partagés avec d'autres agences immobilières, peut-être que c'est une autre agence de votre réseau qui aura le meilleur acheteur. Donc pas votre acheteur, les acheteurs. Pas mes acheteurs, les acheteurs. Donc maintenant, la tentative de rendez-vous. Première tentative de rendez-vous. Je vous montre, très simple. Est-ce que vous êtes disponible plutôt la semaine ou en fin de semaine pour que je vienne voir votre maison? Voilà, simple, hein, d'accord? Vous avez noté la semaine ou la fin de semaine. Ça, c'est une alternative de rendez-vous. Une alternative de rendez-vous, c'est un choix ou un autre, d'accord? Le jour, le soir, est-ce que 18h, 19h, ça, c'est des alternatives. Et surtout pas de est-ce que vous êtes disponible pour que je vienne voir la maison? Parce que là, c'est une question fermée. La réponse, c'est oui ou non. Est-ce que vous êtes disponible que je vienne voir la maison? Soyez certain que la réponse, ça va être non. Donc, si vous voulez avoir plus de chances qu'on vous dise oui, pas de question fermée, une alternative de rendez-vous. Est-ce que vous êtes disponible en semaine, fin de semaine? Est-ce que vous êtes disponible plutôt le jour ou le soir? Deuxième point, que je vienne voir la maison, pas visiter la maison. Parce que dans la tête des gens, si vous utilisez le mot visiter, ils vont penser que vous venez avec un acheteur. Soyez sûr d'une chose, vous êtes responsable de ce que vous dites et vous n'êtes pas responsable de ce que les gens comprennent. Donc, là, on vient de passer la tentative de prise de rendez-vous. On a vu le jour, le soir. Figurons que on a déterminé un rendez-vous pour mercredi 19h. D'accord? Donc là, maintenant, on va fermer le rendez-vous. Je vous montre. Bon, très bien. Donc, on se voit mercredi à 19h. Et vous êtes monsieur? Monsieur Durand? Très bien. Monsieur Durand, je vérifie votre adresse. C'est bien le 123 des Rossignols? Très bien. Monsieur Durand, pour notre rendez-vous, est-ce que vous pourriez préparer votre facture de taxe foncière et votre taxe d'habitation ainsi que votre diagnostic de performance énergétique, s'il vous plaît? Bon, là, le client, là, globalement, il va dire oui, pas de problème. D'accord? Bien important. La taxe d'habitation, la taxe foncière et le DPE, évidemment, vous allez le consulter pendant le rendez-vous. Mais à quoi ça sert surtout ce point 9 de qu'est-ce que le client doit préparer? Ben, c'est tout simple. C'est que si le client doit préparer quelque chose, il vous attend. Et ça vous permet d'éviter de vous faire poser des lapins. D'accord? Donc si vous faites ça correctement, vous allez avoir très très peu de clients incorrects qui vont vous oublier. Si vous ne le faites pas, vous êtes à peu près certain que vous allez avoir des lapins quasiment à chaque fois. Donc faites-le. Après, on passe au point numéro 10. Bon, je vais vous laisser mes coordonnées. Est-ce que vous avez de quoi noter? Demandez-lui s'il a de quoi noter. Parce que sinon, si vous embrayez tout de suite sur votre nom, votre numéro de téléphone, ben ce qu'il y a, c'est que ça ne fonctionne pas bien. Parce qu'il n'aura pas noté. D'accord? Alors, mon nom, c'est Yann Raoul. Donc, deux N pour Yann et un T à Raoul. Et mon numéro de cellulaire, c'est le 514-430 blablabla blablabla. Donc, monsieur Durand, on se voit mercredi à 18h. Et puis, bon, si vous aviez un empêchement, merci de me prévenir, hein, s'il vous plaît. D'accord? Parfait. Bah, je vous dis à mercredi. Bonne soirée. Voilà, pas de commentaire. Vous voyez que pendant la conversation téléphonique, ça peut devenir des fois un petit peu tendu, ce que j'ai appelé si vous voyez qu'il y a un blocage. Alors, simplement des exemples. Vous pouvez venir, mais je ne signerai rien. Souvent, c'est bah, vous pouvez venir, hein, mais je vous préviens, je ne signerai rien. D'accord? Ou c'est combien votre commission? Combien vous chargez? Qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Etc. Toutes les questions qui amènent à parler d'argent, de vos services, etc., on n'en parle pas au téléphone. D'accord? Réponse bien simple en deux temps. Premier temps, vous savez, monsieur le propriétaire, là, pour le moment, c'est une prise de contact, hein. Vous allez me parler de votre projet, vous allez me faire visiter votre maison, et puis moi, je vous dirai ce que je peux faire pour vous. Si vous voyez que à cet endroit-là, c'est désamorcé, vous passez du côté fermeture du rendez-vous. D'accord? Si vous voyez que votre interlocuteur est encore fermé. Mon arme de destruction massive, c'est puissant. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous le fais et après je vous l'explique. Là, par exemple, le propriétaire vous dit, oh non, mais qu'on soit bien d'accord, hein, moi je chinerai rien avec toi, tu peux venir voir la maison, mais je chinerai rien. Ben là, vous lui placez très simplement. Mais vous savez, hein, à chaque fois que je rencontre un client, là, il y a toujours trois options, trois possibilités. La première, c'est qu'on peut décider de travailler ensemble. La deuxième, c'est que vous pouvez décider de ne pas travailler avec moi. Et encore la dernière, là, c'est que moi, je peux décider de ne pas travailler avec vous, hein. Et puis, les trois options sont parfaitement correctes. Ça fait du sens, non? Ce jeu des trois options, il est vraiment super important parce qu'il remet tout le monde d'égal à égal. Parce que, oui, on lui dit que, effectivement, on peut décider de travailler ensemble. Donc, on n'est pas en train de lui dire non, non, t'inquiète pas, je viendrai, mais je chinerai rien. Ben non, ça ne marche pas, ça. Si vous lui dites ça, vous tuez vous-même, vous tirez une balle dans le pied avant d'aller au rendez-vous. La deuxième option, c'est vous pouvez décider de ne pas travailler avec moi. Il est libre, il a le choix. Mais de la même façon que vous, vous avez le choix. Vous sélectionnez vos clients. D'accord? Donc, vous lui dites, ben moi, je peux décider de ne pas travailler avec vous. Et ces trois options qui sont parfaitement correctes. En fait, c'est simplement du gros bon sens. C'est simplement les trois options qui peuvent arriver pendant un rendez-vous. On fait juste lui rappeler. C'était quand même la version la plus idéale du script, hein, où tout se déroule bien et puis il n'y a pas une objection. Mais attention, hein, soyez pas surpris parce que ça arrive de temps en temps. D'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer une version qui est quand même plus courante, hein, des objections qui viennent de la part de votre interlocuteur au téléphone. C'est parti. Puisque des objections, je l'ai mentionné, des réponses, quelques réponses possibles du vendeur. Donc la première, c'est je ne veux pas travailler avec un courtier, je ne veux pas travailler avec un agent. Bon, souvent, ils ne le disent pas comme ça. Des fois, c'est « Oh non, 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 vous les agents, je ne veux pas entendre parler de vous. Vous les courtiers, je ne veux pas entendre parler de vous. » Bah là, la réponse est toute simple. Je comprends. Permettez-moi de vous poser une question. Si j'ai un acheteur qui est prêt à payer votre prix et prêt à accepter vos conditions, est-ce que vous voulez que je vous en parle? Deux choix de réponse. Oui. Deuxième, non. Alors, premier choix de réponse. S'il vous dit oui, très bien. Là, vous continuez, alternative de rendez-vous, et puis vous fermez le rendez-vous. Et s'il vous dit non, à son besoin le plus ultime, un acheteur prêt à payer son prix et accepter ses conditions, s'il veut pas de ça, dépêchez-vous de raccrocher, parce que vous aussi, vous en voulez pas. Souvent, ce qui vient après cette objection, on va dire, c'est la phrase suivante. Là, c'est le client qui vous le dit. Mais est-ce que vous avez un acheteur pour ma maison? Et puis là, avec beaucoup d'aplomb, ben, comment sélectionner le meilleur acheteur pour votre maison alors que je ne la connais pas? C'est pour ça que j'ai besoin de la voir. Est-ce que vous êtes disponible en semaine ou plutôt en fin de semaine que je vienne voir votre maison? Pas compliqué. Ne vous embarquez pas en dehors du texte. Restez dans le texte. Des centaines de courtiers, des centaines d'agents ont participé au programme, suivent religieusement le texte et ça fonctionne. Donc, le propriétaire va certainement vous dire aussi, bah tiens, vous avez toutes les photos sur Internet pour vous faire une idée de ma maison. Mais là, vous lui répondez bien simplement. Ben, vous savez, aujourd'hui, hein, avec toutes les photos HDR et les grands angles, il y a tout un monde entre les photos et la réalité, hein. C'est pour ça qu'il y a rien qui remplace une visite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Très souvent, le propriétaire va vous dire oui, effectivement. Et puis ben là, est-ce que vous êtes disponible plutôt le jour, la semaine, deux jours, le week-end, le soir? Vous faites votre alternative de rendez-vous, puis vous closez votre rendez-vous. Je vous la refais une deuxième fois. Bon, vous savez, aujourd'hui, hein, avec les photos HDR et puis les grands angles, hein, il y a tout un monde entre les photos et la réalité. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui remplace une visite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quand vous allez demander la facture de taxes foncières, de taxes d'habitation et le DPE au propriétaire, il se peut qu'il vous demande pourquoi. Bah là, c'est pas compliqué. Il va vous dire bah, pourquoi est-ce que vous voulez la taxe foncière et puis la taxe d'habitation? Et bah, vous lui dites, hein. Bah, la taxe foncière, la taxe d'habitation ainsi que le DPE font partie des premières informations qui sont demandées par les acheteurs. C'est important de savoir combien ça coûte de vivre dans une maison comme la vôtre, hein. Non? Ouais, effectivement.
Oui, allô?
Oui, bonjour, je vous appelle concernant votre maison que j'ai vue sur savantpafour.com.
Oui.
Est-ce qu'elle est toujours à vendre?
Oui, tout à fait, oui, effectivement.
Très bien, vous êtes le propriétaire?
Oui, c'est moi-même, ouais.
Très bien, je me présente, je m'appelle Yann Raoul, je suis courtier immobilier pour Via Capital dans votre quartier.
Non, je suis désolé, j'ai pas envie de parler à des courtiers ou à des agents immobiliers, là, ça fait le dixième qui m'appelle, donc.
Ah, je comprends tout à fait. Permettez-moi de vous poser une question. Si
Ouais,
j'ai un
je.
acheteur qui est prêt à payer votre prix et accepter vos conditions, est-ce que vous voulez que je vous en parle?
Bah oui, vous avez un acheteur pour moi?
J'ai des acheteurs, j'ai une banque d'acheteurs, mais comment sélectionner le meilleur d'acheteurs pour votre propriété alors que je ne la connais pas? C'est pour ça que j'aimerais la voir.
Ok, très bien, bah vous pouvez venir ouais, la visiter, ouais, pas de problème.
Ok, vous êtes plutôt disponible en semaine ou en fin de semaine?
Bah plutôt fin de semaine.
Fin de semaine,
Ouais.
samedi, dimanche, qu'est-ce qui vous convient le mieux?
Ouais, samedi matin, ça serait pas mal.
Samedi matin, alors samedi matin, j'aurai soit 11h, soit midi.
Allons pour 11h.
11h?
Ok.
D'accord. Donc, vous êtes monsieur?
Monsieur Mass,
D'accord, monsieur
MAS.
Mass, je vérifie votre adresse, c'est bien le 1, 2, 3 des Rossignols?
Ouais, tout à fait.
D'accord. Monsieur Mass, pour notre rendez-vous, est-ce que vous pourriez préparer votre taxe foncière, la taxe d'habitation et votre diagnostic de performance énergétique, s'il vous plaît?
Oui, mais pourquoi vous avez besoin de ces documents? Là, c'est juste une visite, hein.
Bien sûr, je viens voir la maison et ce qu'il y a, c'est que la taxe foncière, la taxe d'habitation et le diagnostic de performance énergétique, notamment, sont les premières informations qui sont demandées par les acheteurs. Et puis, c'est important de savoir combien ça coûte de vivre dans une maison comme la vôtre, non?
Ok, très bien. Bah, je vous prépare ça alors, pas de problème.
Parfait. Monsieur Mas, je vais vous laisser mes coordonnées. Vous avez de quoi noter?
Ouais.
D'accord. Donc, mon nom, c'est Yann Raoul,
Ouais.
YA2N, RAOULT, et mon cellulaire. C'est le 514 430 tatata tatata.
Ok, très bien, c'est noté.
Excellent. Donc, on se voit samedi à 11h. Et si jamais vous aviez un empêchement, bah, merci de me prévenir.
Ok, très bien, merci à vous.
Merci, bonne fin de journée. Au revoir.
Merci, au revoir.